Salut, ici Ziad Malouf. Dernière émission avant la pause estivale pour l'équipe de l'atelier des médias. Enfin, je dis ça, mais Dilette, Manon et Mélissa continuent à travailler, notamment pour préparer la formation 2015 de Mondoblog. Elle devrait se tenir à Dakar, au Sénégal. Si vous êtes un de nos contributeurs, une de nos contributrices, ne vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles très bientôt. Si vous n'êtes pas un de nos contributeurs, mais que vous appréciez notre travail et plus encore celui de nos 600 blogueuses, blogueurs, et que vous pouvez nous aider, nous fournir du matériel, financer des voyages, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons besoin de vous.
L'atelier des médias, la web émission participative. RFI. Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Vous avez peut-être remarqué que le son de ma voix n'est pas habituel. C'est parce que j'utilise un petit enregistreur pour vous parler. Je ne suis pas à Paris, mais à Liège, en Belgique, où s'est tenu cette semaine le deuxième forum mondial de la langue française. Pour paraphraser Stefano Amekoudi de l'AUF à Dakar, cette rencontre est pour la société civile francophone ce qu'est le sommet de la francophonie pour les chefs d'État. En d'autres termes, le forum mondial de la langue française est une réunion de citoyens, de porteurs de projets, et cette édition est placée sous le signe de la créativité et par extension de la jeunesse francophone. La jeunesse francophone, pour moi, pour nous à l'atelier des médias, c'est un petit peu notre quotidien, car les projets que nous menons attirent la jeunesse, qu'elle ait 18, 38, 68 ou 90 ans. J'ai passé 5 jours à Liège et j'ai pu y retrouver plusieurs participants du projet Mondoblog. Ils étaient là pour partager leurs visions, leurs ambitions en France. Francophonie. Nous allons retrouver certains d'entre eux aujourd'hui dans la deuxième partie de l'émission. D'autres, malheureusement, n'ont pas pu faire le voyage. En termes de voyage, de visa, de formalité, les absents n'ont pas toujours tort, n'est-ce pas ? Babette Lallier, tu es blogueuse sur Humeur Nègre depuis Abidjan. Ta plume est aiguisée comme le dard d'une guêpe. Babette, tu aurais dû être à nos côtés, mais comme des dizaines d'autres jeunes de talent, tu n'as pas obtenu ton visa. Tu as choisi en revanche de transformer ta déception en création.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr. Bonjour, c'est Babel depuis Abidjan. Ce coucou aurait dû vous parvenir depuis Liège, où se tient présentement la deuxième édition du Forum mondial sur la langue française. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci qui ? Merci à l'ambassade de Belgique en Côte d'Ivoire qui n'a lésiné sur aucun effort pour me permettre de rester chez moi. Par où commencer cette longue histoire digne de l'aventure ambiguë de l'écrivain Cheikh Hamidou Kane, vécu par bon nombre d'Africains et d'Ivoiriens en particulier dans les ambassades européennes. Le 16 juin, je reçois un courriel de la francophonie m'invitant à prendre part au Forum mondial sur la langue française. C'est tout excité, mais non sans une certaine appréhension due au fait que j'avais essuyé un refus français en 2014 que j'engage la procédure de demande de visa. Dans la salle d'attente, près de moi, une demoiselle commente l'attitude des ambassades européennes en Côte d'Ivoire. Avec ces gens, on ne sait jamais. Ils ont toujours de mauvaises surprises. Quant à moi, je suis d'emblée averti qu'en raison du refus antérieur des Français, l'ambassade serait dans l'obligation de se référer à l'Office des étrangers à Bruxelles avant de me donner une réponse. Par un vendredi ensoleillé, je reçois un appel de l'ambassade de Belgique m'informant que ma demande de visa est accordée et m'exigeant la confirmation de la réservation du billet d'avion pour l'émission de mon visa. Je m'exécute et attends, entre autres préparatifs, le retrait du visa qui tarde anormalement. Je décide finalement de prendre contact avec l'ambassade qui me signifie ceci dans un courriel.
Madame, malheureusement le système nous a signalé que vous aviez reçu un refus français en 2014. On a dû soumettre à l'Office des étrangers à Bruxelles pour décision. On ne saurait délivrer de visa sans leur accord.
J'en reste médusée. J'appelle immédiatement l'ambassade qui me confirme l'information. Naturellement, je leur rappelle qu'ils étaient bel et bien informés de ce refus et ne pouvaient m'opposer un tel argument. Pour toute réponse, mon interlocuteur avec son ton le plus calme dit
« Madame, si vous n'avez pas de réponse demain à 13h, annulez votre réservation. »
Une réservation déjà confirmée, m'écriai-je. L'homme impassible acquiesce et prend congé de moi. Quel culot, pensais-je. Pourquoi n'agirait-il pas ainsi après tout ? Les ambassades, toutes puissantes qu'elles sont, ont toujours traité les demandeurs de visa de la sorte, sans jamais répondre de leurs actes. Brandissant incessamment le même argument selon lequel la preuve de l'intention de retourner chez nous après tel ou tel séminaire n'a pas été faite. Comment parler de francophonie et d'intégration quand les pays qui entrent et sortent de nos territoires à leur guise s'emploient avec tant d'ardeur à nous barrer la route? Être célibataire, sans enfant et de classe moyenne, et même pauvre, sont-ils des arguments valables pour opposer des refus systématiques de visa? Dans ce cas, la preuve de mon intention de retourner chez moi après la participation à quelques rencontres internationales n'est pas pour maintenant. Allez, shalom et vive la francophonie. Enfin, si on peut dire ça.
RFI. Bonjour Michaël Jean.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la francophonie, vous avez été élu en novembre 2014, mais vous êtes secrétaire depuis le mois de janvier 2015. Vous avez été journaliste auparavant au Canada, femme politique, diplomate. Nous sommes à Liège, au Forum mondial de la langue française, le deuxième Forum mondial de la langue française. Vous avez entendu la chronique de Babette en début d'émission. Vous souhaitez peut-être déjà dire un mot sur cette situation?
Alors... Je vais m'adresser à Babette. Chère Babette, je veux que vous sachiez que moi aussi, je suis profondément déçue que vous n'ayez pu être là. Pour une raison qui, pour moi, n'est pas acceptable. C'est-à-dire que je pense à tous ces jeunes qui, comme vous, n'ont pas pu être à ce rendez-vous, alors qu'ils s'y étaient préparés pour parler du numérique, de ce que cela représente, pour parler de leur créativité, de ce qu'ils ont inventé, de ce qu'ils ont créé, de ce qu'ils produisent. Et je me dis qu'il ne faut pas vivre cette situation comme une fatalité. Nous, Organisation internationale de la francophonie, nous voulons réfléchir à cela parce que il n'est pas normal que l'on se retrouve dans cette situation où il y a cette impasse. Pas de visa, pas moyen de circuler. Nous allons travailler autour de ce problème, nous allons aussi en discuter avec les chefs d'État et de gouvernement. Parce que cela n'est pas acceptable. Que Babette sache que tous ces jeunes, ils sont une centaine, qui n'ont pas pu venir, faute de visa, nous allons rester en lien et faire en sorte que vous puissiez continuer d'être de ce magnifique rendez-vous et de ce projet.
Le thème de ce forum, c'est la francophonie créative. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la francophonie créative?
C'est exactement ce qu'est la francophonie. C'est à l'essence même de la francophonie, au fait. C'est que moi, je vis et je suis heureuse d'accompagner une francophonie qui est justement créative, qui est inventive, qui est vivante. Et une francophonie aussi des solutions, compte tenu de nos expériences, nos expertises, nos savoir-faire, nos modèles aussi. Et que l'on soit du Sud ou du Nord, on a beaucoup à offrir, énormément à offrir. Et les jeunes, les femmes, les populations, sont au cœur justement de ce moteur d'idées, de créativité et d'invention dans la francophonie.
Et c'est dans cet état d'esprit, pour conclure, que vous avez lancé un réseau d'incubateurs,
oui,
que vous avez annoncé ici, c'est ça?
Il faut absolument pouvoir donner des raisons d'espérer à tous ces jeunes. Ces jeunes qui deviennent aussi la proie d'autres associations criminelles, radicalisées, extrémistes, qui exploitent ce désenchantement, qui exploitent ce sentiment d'impasse. Donc, ces incubateurs et ces accélérateurs d'entreprises, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le soutien à l'innovation, la professionnalisation, c'est une façon de répondre aussi à ce problème. Et en travaillant au plus près des pays de l'Afrique subsaharienne francophone, sur les filières qu'ils ont envie de développer, les économies aussi qu'ils ont envie de stimuler. Donc, on se dit, voilà, la réponse, elle est là. Elle fait partie de nos solutions que nous maîtrisons déjà. Nous en connaissons l'impact, l'efficacité à court et à moyen terme. Et avec ça, nous allons avancer. Donc c'est ça, je pense que la francophonie, c'est cette possibilité de réfléchir à des problèmes en se disant, mais nous n'avons pas à réinventer la roue. Nos expériences peuvent déjà parler d'elles-mêmes pour répondre à tous ces problèmes et pour avancer.
Merci.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis à Liège pour participer à un événement parallèle qui a pour nom de code Hack Explore. Il est organisé par la Cité internationale Wallonie-Bruxelles et coordonné par Yadranka Zorica. Salut Yadranka.
Bonjour.
C'est quoi Hack Explore alors?
Hack Explore, c'est un réseau de jeunes francophones, on les appelle les co-novateurs, des jeunes qui arrivent avec des idées nouvelles et qui se mettent ensemble 48 heures de manière non virtuelle, même s'ils travaillent virtuellement par ailleurs, pour créer ensemble, quoi.
Alors la particularité donc de Hack Explore, c'est que c'est un hackathon qui a pris place dans différentes villes de l'univers francophone. Donc d'abord au Maroc, ensuite à Dakar au Sénégal où nous nous sommes croisés. C'était juste avant le sommet de la francophonie, donc au mois de novembre 2014. Et maintenant donc Liège à l'occasion du Forum mondial de la langue française.
Voilà, c'est un réseau qui a grandi petit à petit. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est simplement réunir le maximum de communautés. Puis ils apprennent qu'on a fait ça et petit à petit ça grandit, donc c'est vrai qu'on l'a fait Liège, Dakar, Casa, voilà, et puis petit à petit les Béninois, les communautés béninoises, ivoiriennes, d'un peu partout commencent à s'unir, de France, du Canada, commencent à se fédérer autour de nous.
Donc toi tu représentes une ONG, enfin une association qui s'appelle la Cité Internationale Wallonie-Bruxelles. Pourquoi avoir choisi de t'intéresser aux communautés créatives, jeunes, innovantes, etc., non pas d'Europe ou même de Belgique, mais plutôt du monde francophone, c'est-à-dire et d'Europe et de Belgique, mais aussi d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord?
Parce que c'est une richesse pas possible, que je pense que on peut pas travailler. D'ailleurs, si on regarde à travers l'histoire, quand on se referme sur soi, on s'appauvrit intellectuellement, bien sûr, au niveau de la créativité, parce que si on pense tous la même chose, on crée rien, mais aussi économiquement. Donc si on fait un petit tour des pays, par exemple, qui se referment sur eux-mêmes, ils s'appauvrissent terriblement. Et donc moi, je suis pour la richesse intellectuelle, culturelle, etc., et donc elle est nécessairement transnationale. Et le fait de parler la même langue, évidemment, c'est plus facile au niveau de la communication, etc. Et une langue, elle n'est pas territoriale. Donc, voilà.
Merci, bon courage pour la suite.
http://atelier.rfi.fr.
Mon rôle à Hack Explore est celui de mentor, c'est-à-dire de conseiller auprès des jeunes participants. Je le partage avec une vingtaine de personnes venant du monde entier ou tout simplement de Liège, comme Patrick Séverin. Il est journaliste et producteur transmédia. Il s'est distingué récemment en Belgique en publiant un projet au nom plein de provocations, Salaud de pauvre. Salut Patrick.
Salut.
Tu es mentor ici à Hack Explore. Quelques mots sur cette expérience déjà ?
C'est hyper enrichissant hein, d'avoir à la fois ce mélange des compétences des journalistes, des communicants, des développeurs, des graphistes, et puis ce mélange des cultures, la francophonie étant riche en culture, mais ça dépasse même les pays qu'on imagine, puisqu'il y a des gens d'Amérique du Sud, il y a des gens de Turquie, donc c'est vraiment super riche. Ouais.
Tu es journaliste et producteur pour une société qui s'appelle Instant Production, c'est ça ?
Tout à fait, ouais.
Basé ici à Liège.
On est liégeois et on essaye de développer justement les approches transmédia et l'innovation journalistique ici dans une ville de Liège.
Qu'est-ce que ça veut dire transmédia déjà ? C'est pas multimédia, transmédia ?
Non, transmédia, c'est ce qui correspond le plus à notre approche. Multimédia, aujourd'hui, on l'est un peu par essence. On a grandi en jonglant avec tous les médias. On a ça en nous. Le défi aujourd'hui, c'est pas de faire du multimédia, c'est de trouver comment chaque média a une plus-value pour raconter une partie de l'histoire, une approche, un angle, pour ne pas que simplement multiplier notre histoire ou notre thème sur différents supports, mais que chaque support touche des publics différents, soit des portes d'entrée différentes, touche des publics différents sur des morceaux d'histoire différentes. Donc ça demande de vraiment connaître la recette, la mécanique de chaque média, l'identité de chaque média avec lequel on travaille, et de connaître son sujet à fond pour voir quelle partie de son sujet, quel angle correspondra le mieux à quel support.
Alors pour bien comprendre, tu vas peut-être nous donner un exemple, et cet exemple est tout trouvé, c'est Salaud de pauvre, un projet qui a reçu des prix, qui a un nom assez amusant, donc vous insultez les pauvres, c'est tiré de Coluche d'ailleurs, non ?
Ouais. C'est Coluche, et puis c'est évidemment Gabin, dans la traversée de Paris, qui et son envolée lyrique sur ces salauds de pauvres, mais Salaud de pauvre, évidemment, c'est à la fois du second degré, à la fois c'est très direct, parce que finalement c'est un travail qu'on fait sur la mendicité, sur ces gens qui sont dans la rue
à Bruxelles.
Oui, ici à Bruxelles, et ces gens qui sont dans la rue, qui au quotidien nous renvoient à notre mauvaise conscience. La mendicité a de ça de particulier qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit catholique ou laïque, qu'on soit riche ou pauvre. Ça nous pose un problème de conscience. À des degrés divers, parfois c'est simplement question d'hygiène publique, parfois c'est simplement ne pas savoir ce qu'il faut faire, parfois c'est soulever des questions éthiques, est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on entretient un cercle vicieux finalement en leur donnant de l'argent. Et finalement, quoi qu'il arrive, quoi que ces gens fassent, ça nous pose un souci, ça nous crée du trouble, ça nous interpelle, et donc c'est vraiment des salauds de pauvres, quoi.
Et du coup, vous avez essayé de poser les questions et de répondre aux questions que se posent les gens. Tu peux nous expliquer ?
C'est ça. Ce qui était intéressant avec un sujet tel que celui-là, c'est que tout le monde a un avis ou en tout cas connaît des histoires sur la mendicité. Que ce soit la fameuse BMW ou Mercedes qui les dépose le matin et qui vient les rechercher après journée.
BMW, oui.
Que ce soit le fait que simplement, en fait, certains ont un logement et gagnent énormément d'argent à travers la mendicité et sont plus riches que nous. Que ce soit le fait que, en fait, tout ce qu'on leur donne, de toute façon, ils l'utilisent pour le boire ou en drogue. Enfin, il y a énormément d'histoires. Et on a voulu, nous, aller voir ce qu'il y avait derrière ces histoires-là. À travers eux, à travers leurs témoignages, leur version des choses, mais à travers aussi celle de ceux avec qui ils travaillent, c'est-à-dire les gens, les travailleurs de la rue, les hommes politiques, les gens qui ont la responsabilité de gérer les rues, la police, que ce soit la police locale, mais aussi la police qui s'occupe de la traite des êtres humains. Et donc, en multipliant comme ça, en gros, sur Salaud de Pauvre, je pense qu'on a 47 interviews, 47 témoignages, une trentaine de mendiants, plus le reste des spécialistes un peu différents niveaux. Et en multipliant comme ça, on a voulu aller derrière le rideau et voir un peu ce qui était vrai, ce qui était faux. Et évidemment, ce n'est jamais blanc ou noir. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours métissé. Et que ce qui est certain, en tout cas, c'est que criminaliser la mendicité, comme c'est de plus en plus le cas en Belgique aujourd'hui, alors que la mendicité est légale, mais les communes essayent de plus en plus de la criminaliser à travers des règlements très sévères, ça n'aide pas, évidemment, puisque ce n'est pas les pauvres qu'il faut criminaliser, c'est la pauvreté.
Question importante, on parlait du transmédia, comment vous transposez ? Donc, je sais qu'il y a salaudepauvre.be, c'est un site où on peut voir différentes questions défiler avec des éléments de réponse en infographie, mais quels sont les autres éléments transmédia ou médias que vous avez produits autour de ce projet ?
Depuis l'avènement des web documentaires et tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel j'ai commencé à travailler, mais je me suis rendu compte un jour que je parlais tout le temps de web documentaires, mais je n'en avais jamais regardé un. Je veux dire, vraiment regarder un, c'est-à-dire où je pouvais vous raconter l'histoire après. Je pouvais vous raconter le concept, à quel point la technologie était sympa. Mais jamais j'avais été suffisamment pris par le récit pour le suivre jusqu'au bout. Et ça, pour moi, c'était une vraie faiblesse des projets web. Donc, je me refuse à faire des projets web que personne n'ira regarder vraiment. Où on me dit, c'est génial ce que t'as fait, mais au final, on sait pas ce que j'ai fait. Et donc, aujourd'hui, on est dans une période où les projets web sont des objets hyper intéressants, mais se suffisent pas à eux-mêmes pour toucher le grand public. Et moi, en tant que journaliste, je ne veux pas viser que des niches, j'aime essayer d'atteindre ce qu'on appelle le grand public. Et c'est là où le transmédia est hyper intéressant, c'est qu'à travers une déclinaison en télévision, des articles de presse, un dossier spécial dans un magazine, des interventions quotidiennes dans le journal à la radio, on ouvre autant de portes d'entrée sur le projet web, mais même si les gens ne vont pas voir le projet web, au moins ils entendent parler de mes personnages, ils entendent parler de mes thématiques, ils comprennent une partie du message qu'on porte. Et alors ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, les rédactions n'ont plus le temps de faire du travail de fond. Aujourd'hui, les rédactions en Belgique, la plupart d'entre elles, sont des productrices d'informations à la chaîne. Quand on fait un journal, le but malheureusement des journalistes, la plupart du temps, c'est de remplir le journal plutôt que d'essayer de décrypter le monde dans lequel on vit. La force d'acteurs extérieurs comme les nôtres, c'est d'avoir cette liberté. Salaud de Pauvre, c'était 3 mois de terrain, comme j'ai dit, une cinquantaine de rencontres, d'analyses, plus le temps de production, ce que les journalistes n'ont pas le temps de faire. Et donc moi, je peux après venir trouver les rédactions en disant, voilà, moi j'ai ce contenu, moi j'ai ce travail de fond, valorisons-le ensemble. Eux ont le public, moi j'ai le travail de fond. Et donc c'est une façon un peu de réinventer la façon de faire du journalisme et de ramener du fond dans des médias qui sont à la course au clic ou à la course plus à l'incident qu'à l'analyse, quoi.
Merci, bon courage, c'est intéressant. Donc Salaud de Pauvre, ça se trouve sur internet, salaudepauvre.be, et ta maison de production s'appelle Instant Production, c'est ça ? On trouve aussi un site internet ?
Instantproduction.be, instant au pluriel.
Merci, bonne continuation, et puis surtout bon hackathon, on va continuer à en parler.
RFI. Il est l'heure d'une courte pause de 3 minutes si vous nous écoutez sur l'antenne, une seconde si vous nous écoutez par podcast. Pardon d'ailleurs pour la qualité du son de ce podcast. Récemment, l'un de nos auditeurs n'a pas mâché ses mots sur Facebook pour nous dire tout le mal qu'il pensait de notre compression sonore. Toutes nos excuses, nous travaillons pour améliorer cela. À tout de suite.
L'atelier des médias.
Atelier des médias spécial Liège cette semaine. Dans une vingtaine de minutes, ce sera la dernière chronique de Francis Pisani avant la pause estivale. Francis, souhaite réfléchir avec nous sur la ville en tant que média, rien que ça. Avant de me reposer moi aussi, je vous propose aujourd'hui de partager les rencontres que j'ai pu faire cette semaine à Liège au Forum mondial de la langue française. Juste avant la pause, je vous présentais un des mentors de Hack Explore, le marathon de création organisé à l'occasion de ce forum et auquel j'assiste. Les mentors accompagnent les projets d'une quinzaine d'équipes. Je suis avec Roland Ungbadji du Bénin. C'est un des jeunes qui participent à ce marathon. Salut Roland.
Oui, bonjour Ziad.
Qu'est-ce que tu fais ici?
J'ai été sélectionné comme tant d'autres jeunes pour participer au Hack Explore qui nous donne la possibilité en 48 heures de laisser libre cours à notre créativité, à notre imagination afin de trouver des solutions pour aider dans le monde de l'audiovisuel, dans l'éducation et dans l'information.
Pour aider, c'est vous-même qui venez ici pour aider le monde de l'audiovisuel, pour réfléchir, c'est ça?
Oui, nous réfléchissons parce que nous pensons également, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle fait partie de celle-là qui se dit qu'elle ne doit plus rester spectateur, elle doit devenir acteur pour elle-même prendre en main, faire quelque chose. Et si on donne l'occasion de venir nous confronter, ce que je comprends, ce n'est vraiment pas un challenge, c'est venir nous rencontrer, nous connaître, réfléchir ensemble et trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent le monde.
Alors toi, tu vis au Bénin, qu'est-ce que tu fais au Bénin, Roland ?
Je suis jeune béninois, je me qualifie comme étant un étudiant de la plus grande université du monde, je veux dire Internet, puisque je suis autodidacte, Internet m'a tout donné.
C'est-à-dire ?
Internet m'a tout donné parce que je suis autodidacte, je n'ai pas eu la chance de faire une université, une école pour apprendre ce que je fais. C'est grâce à Internet, grâce à mes petites recherches, j'en suis là où je suis et la route est encore longue, mais on s'y plaît bien.
C'est-à-dire que tu n'as pas pu aller à l'université, mais tu as appris sur Internet. Qu'est-ce que tu as appris sur Internet ?
Je me rappelle à mes débuts, mes premiers compagnons étaient Microsoft Paint ou Publisher, Microsoft Publisher. Je m'amusais à faire de petites créations et l'instant d'après, la passion s'y est mêlée. Et voilà, je voulais faire encore et encore. Je n'avais pas la chance de faire une école. Il n'y avait pas d'école d'ailleurs qui formait en cela, en design. Il n'y avait pas d'école qui formait en design. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs qui forme en design au Bénin. Donc j'ai découvert Internet très tôt et je me suis lancé dans cette grande université qui m'a ouvert les portes à travers des tutoriels, faire des recherches sur Google, aller sur YouTube, regarder des cours, suivre des gens comme Geoffrey Dom qui est un grand designer français qui partage son savoir, suivre des gens comme Matrinx qui propose des tutoriels gratuitement, suivre ces gens-là, apprendre de ces gens-là. Je pense que c'est Internet qui m'a tout donné.
Et comment on fait donc quand, comme toi, on n'a pas pu suivre d'études, on décide d'apprendre le graphisme, le design tout seul pour se retrouver dans un réseau qui va t'inviter à assister à un hackathon à Liège, tu étais à Dakar avant, comment ça marche ça? Comment est-ce qu'on s'insère dans ce type d'univers?
Je suis de ceux qui pensent que vous auriez beau faire le métier le plus noble du monde, si vous ne le faites pas savoir, c'est que pour le reste du monde, vous ne faites rien. En effet, je pense que quoi que vous fassiez dans cette vie, il faut que vous positionniez, il faut que vous fassiez remarquer, il faut que vous donniez la chance de vous positionner sur la blogosphère. Internet aidant, j'ai un blog que j'anime très bien, je partage mes créations, je fais de petits travaux, j'anime des ateliers également pour partager mon savoir. De là, je pense que j'arrive quand même à me positionner un peu sur l'univers TIC et médias au Bénin et ça m'a quand même ouvert un certain nombre de portes. Je suis au courant de ces initiatives. Ce n'est pas que ça. Il y a des gens qui n'ont jamais fait des trucs que je dis, mais pourtant ont l'information de par Internet, de par Facebook. Ça me ramène toujours à dire que Internet nous ouvre toutes les portes et pourquoi pas ne pas réfléchir à l'ouvrir à d'autres également.
Donc là, on est en fait au sein de Hack Explore. Il y a autour de nous une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'équipes, de 2 à 4 personnes qui travaillent sur leur projet. Toi, tu t'es allié avec 3 camarades, c'est ça ? Pour un projet sur le journalisme, c'est ça ?
Oui, un projet sur le journalisme. le journalisme, c'est un peu trop dire. On ne va pas dire qu'on va prendre la place des journalistes. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais nous voulons offrir la possibilité aux gens d'avoir accès à une information vérifiée. Nous voulons créer un filtre qui soit celui-là qui permet d'avoir l'accès à une information vérifiée. De plus en plus, nous constatons que nous sommes dans un monde ultra connecté, ultra viral, où nous voyons, nous nous surprenons partager des informations avec nos proches, nos amis, sans avoir la possibilité de la vérifier. Et on est tous d'accord que la base du monde même, c'est l'information. Et si nous nous permettons de partager des informations non vérifiées, c'est que nous contribuons à détruire le monde. Ça ne fait pas de nous des terroristes. Nous sommes tous tout simplement un peu paresseux à aller jouer le rôle du journaliste, de vérifier l'information. Nous n'avons pas cet instinct-là. Mais nous nous créons une application, une extension web qui permette automatiquement, quand l'intention de partager une information ou une information nuisible est sous vos yeux, d'analyser automatiquement cette information-là à travers une base de données bien fournie pour vous dire, vous vous tenez en alerte, voilà cette information, elle n'est pas vérifiée, cette information, elle n'est pas vraiment, vraiment vérifiée parce que notre base de données nous aura donné ces informations.
Et donc ça s'appelle comment? Qu'est-ce que ça va prendre comme forme?
Ce sera tout simplement une extension à installer sur le navigateur. Donc quand vous avez vous l'avez sur votre navigateur Chrome ou Firefox, automatiquement en arrière-plan l'extension fait le travail. Je prends l'exemple de Facebook par exemple. Vous avez l'extension sur Facebook et que vous avez, quand l'intention de partager une publication sur Facebook elle est établie, c'est que vous cliquez sur le bouton partager, automatiquement l'application détecte cette intention-là. Et pour ne pas faire de vous quelqu'un qui partage une fausse information, elle vous alerte. Nous avons checké en arrière-plan, cette information n'est pas forcément vérifiée. Ou que cette information, elle est fausse, parce que la base de données, on l'aura certifiée. La dernière possibilité, c'est de faire de vous un contributeur. Vous venez de découvrir une information qui n'est pas vérifiée, qui est fausse. Vous avez la possibilité d'être contributeur à notre extension, de nous envoyer cette information. L'extension s'appelle Bobard, Bobard en français comme canular, tout simplement pour jouer un peu l'ironie.
Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as un lien à communiquer? Bon, c'est à la radio, donc ceux qui nous écoutent doivent prendre un stylo pour noter. Mais pour te retrouver, ou une recherche Google pour te retrouver facilement, voir quelles sont tes créations de designer autodidacte enfant du web.
Pour me retrouver, tout simplement, on peut me retrouver sur mon site internet. J'ai un site internet qui est tout simplement Mister, comme ça s'entend, ARTVFX.com. Arrivé sur le site, ça redirige vers mon blog et on voit mes créations également.
Mister ARTVFX.
Mister AR, comme de l'art. Mister AVFX, VFX.com.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime.
dernière étape avant de retrouver Francis Pisani, j'ai eu le plaisir à Liège de croiser plusieurs mondo-blogueurs, dont Serge Katembera. Serge est congolais, il vit au Brésil depuis 8 ans. Son blog s'appelle d'ailleurs Carioca Plus et traite régulièrement de la vie quotidienne au Brésil. Salut Serge.
Ça va bien, ouais?
Oui, ça va très bien, ça va.
Qu'est-ce que tu fais ici d'abord?
Le Forum mondial de la langue française a demandé à ce que les gens lancent des projets pour venir présenter. Et moi, j'avais mon projet de recherche déjà. Et donc, je suis venu présenter mes résultats. Et donc, il faut faire une candidature sur le site du forum. Et au bout de 6 mois, on a sélectionné les meilleurs projets selon eux. Et puis, on est venu les présenter en atelier. Voilà.
Et alors, c'était quoi ton projet à toi?
Je travaille sur les nouveaux médias et l'empowerment en Afrique francophone grâce au blog. J'ai remplacé le mot empowerment par autonomisation, parce que c'est le forum de la langue française. Donc voilà, mais l'autonomisation ne passe pas exactement l'idée d'empowerment.
C'est pour ça que, par exemple, Benoît Thulin utilise le mot empouvoirment maintenant.
Je viens de l'apprendre depuis hier, et il était temps qu'on invente un mot pour parler d'empowerment. En portugais, ça existe déjà, empoderamento. Donc on avait un problème vraiment de traduction par rapport à ça. Donc l'empowerment, déjà, il y a une double démarche dans l'empowerment. C'est déjà donner des capacités aux gens et en même temps, les gens prennent du pouvoir. Donc, il y a déjà cette double démarche. Moi, j'ai compris à partir de certaines recherches que les blogs pouvaient transformer la société et transformer les individus qui en faisaient leur activité. Et donc, j'ai voulu découvrir vraiment quels sont les impacts réels de l'activité du blogueur. Pour le blogueur, en tant que personne, et pour la société dans laquelle il s'insère. Pour le blogueur, je fais de la sociologie de la trajectoire des individus. Regardez, en termes de trajectoire sur 2 ans, comment la vie d'un blogueur change concrètement. Sur la société, j'essaie d'analyser l'émergence d'une sphère publique du numérique en Afrique francophone. Dire Afrique francophone, c'est trop vague. Et donc, il me fallait réduire mon sujet. Et ce qui me permettait de parler d'Afrique francophone, c'était de me focaliser sur Mondoblog, qui est une plateforme qui réunit des blogueurs francophones. Donc, ça m'autorisait à dire que je travaille sur l'Afrique francophone. Sinon, Afrique francophone, ce serait vraiment quelque chose de très vague et d'utopique. J'aurais aucune base concrète ou empirique de recherche, quoi.
Il faut que j'explique certaines choses pour que les gens comprennent bien. Donc toi, tu es blogueur depuis plus de 3 ans sur Mondoblog. Ton blog s'appelle Carioca Plus. Tu es aussi chercheur en sociologie et tu as choisi il y a 2 ans de consacrer tes recherches au blogging, ce qui est déjà quelque chose d'assez rare, mais en plus de travailler sur tes co-blogueurs de Mondoblog. Je suis d'ailleurs avec deux d'entre eux, Ahlam Bey qui vit au Maroc et Widler Merencourt qui vit en Haïti.
Son blog, c'est Les fausses aventures d'Ahlam Bey.
Les fausses histoires de Ahlam Bey.
Donc déjà, son blog était mon coup de cœur de 2013, parce que chaque année, j'ai un coup de cœur. Et donc, j'ai interviewé quelques blogueurs à Abidjan pour avoir une base déjà de départ pour ma recherche. Et déjà, sur les interviews que j'ai réalisées, il y a un article qui va être publié dans une revue académique cette année au Brésil, en collaboration avec ma directrice de recherche, qui est basée sur les interviews que j'avais réalisées à Abidjan avec 10 blogueurs. Il y en a un qui est ici, Chambézi de Rocher, qui maintenant en une année il travaille déjà au Canada, au Québec. Donc j'ai vraiment des résultats concrets de comment le blog transforme la vie des individus. C'est pas qu'un slogan qu'on peut avoir gagner du pouvoir ou transformer une vie par rapport au blog. C'est pas non plus de l'idéalisme ou de l'utopisme, mais il y a des résultats. Et ce travail de recherche sur l'impact, il est pratiquement inexistant en France. Au Brésil, il n'existe pas non plus. Mes sources bibliographiques sont américaines ou sud-coréennes.
Est-ce que vous avez une question à poser à Serge Widler?
Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est que scientifiquement, les recherches qui portent sur le blogging sont très rares. D'après toi, c'est dû à quoi? Et puis ensuite, je voudrais te demander, mais est-ce que ton statut de blogueur t'a aidé dans ta démarche scientifique?
D'abord, pour le statut du blogueur, pour travailler, c'est très intéressant parce que déjà, si on part en termes de sociologie, vous avez des chercheurs comme Loïc Vacan, qui est un disciple de Bourdieu. Il a fait des études sur les boxeurs des communautés noires à Chicago. Et lui, sa méthode, c'est de s'insérer dans un milieu, de comprendre ce qu'on appelle l'habitus de ces milieux-là et de pouvoir, pour en parler en tant que sociologue, il faut connaître. Donc, si tu veux parler des boxeurs, il faut que tu fasses de la boxe pendant 2 ans, tu t'insères dans ce milieu et parler. Et donc, moi, ça tombait bien. Je suis blogueur depuis 3-4 ans. Et donc, si j'ai parlé de mon blog, j'ai en même temps la perspective du blogueur, j'ai la perspective du chercheur. Je comprends exactement ce qui se passe. Moi-même, je suis le témoignage d'une expérience d'empowerment par rapport au blogging. Et donc, je sais à peu près ce que ressentent les autres. Je sais ce que moi je ressens et comment je l'analyse par rapport à mes connaissances de sociologie et comment les autres n'ont pas forcément la perception des choses que j'ai. Le fait d'être blogueur, ça aide beaucoup dans ce sens-là. Et l'autre aspect du manque d'études sur les blogs.
Est-ce qu'il y a vraiment un manque d'études sur les blogs? Tu l'as dit pour la France et pour le Brésil, France, mais est-ce que c'est le cas dans le reste du monde? Il y a beaucoup d'Américains qui travaillent sur les nouveaux médias, etc.
Oui, donc en France, j'ai fait quand même des recherches sur les bases de données pour me renseigner sur ça. J'ai trouvé à peu près une dizaine de chercheurs qui travaillent sur les blogs et qui font ce qu'ils appellent la sociologie du journalisme. Déjà, la sociologie du journalisme, c'est pas la sociologie des médias, ils veulent se démarquer par rapport à ça. Et la sociologie du journalisme, elle est plus développée aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Et moi, j'ai trouvé une recherche incroyable sur JSTOR, qui est la plateforme d'articles scientifiques anglophones, la plus grande au monde. Il y a un travail de 2 sociologues sud-coréens. Ils ont réalisé sur 350 blogueurs. Donc, c'est d'une richesse incroyable. Et ils ont analysé les questions identitaires de blogueurs à partir d'une perspective de sociologie interactive de Goffman, comment les blogueurs se construisent une identité et comment ils essaient de représenter cette identité par rapport à leur public. Et ça m'a permis aussi de regarder Monde Blog sous cet angle-là. Par exemple, nous avons des blogueurs qui sont tunisienne, malienne, etc. Bon, les femmes, hein, c'est intéressant parce que être blogueuse, c'est aussi une situation particulière, disons. Il y a la position de la femme, etc. Le blog est une activité déjà qui te permet de te positionner politiquement, genre, pas forcément, mais d'avoir une opinion en tout cas. Et comment les femmes se positionnent par rapport à ça et comment elles se définissent. Donc, comment elles se représentent sur leur blog.
En tout cas, on a bien compris donc que tu es sociologue et blogueur, que tu consacres tes recherches de sociologue, en tout cas pour ta thèse que tu es en train de préparer, et tu as encore 2 ans devant toi de travail. Pour ta thèse, tu consacres tes recherches à la communauté que tu connais le mieux, Mondoblog. Je veux bien savoir ce que toi, ça t'a apporté. Donc, tu n'as pas commencé à bloguer dans le cadre de ta recherche de sociologie, c'est arrivé après. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, toi, congolais, francophone, expatrié au Brésil, qui a commencé à écrire un peu sur la vie quotidienne au Brésil et puis qui écrit maintenant sur plein d'autres sujets dans le monde. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi?
Déjà, la recherche en soi est inédite au Brésil. Elle est inédite. Donc, ça me donne déjà de la visibilité. Ça me permet déjà d'entrer dans le milieu académique brésilien avec quelque chose d'inédit. Et donc, déjà, au niveau du Brésil, c'est ça. Et puis, après, ça me permet d'avoir ce lien avec la francophonie. J'ai eu dans un pays lusophone. Donc, j'arrive, grâce au blogging, à être présent dans la francophonie. D'avoir un pied au Brésil et en Afrique et en Europe, pour moi, c'est une passion de parler du Brésil. Donc, je reçois beaucoup d'invitations, de contacts, des gens qui veulent apprendre quelque chose sur le Brésil ou qui veulent produire des contenus sur le Brésil. J'ai eu un travail, un article publié dans le journal Globo, c'est l'un des plus grands journaux brésiliens. C'est un travail que j'avais écrit sur Boko Haram. Pour moi, c'était une expérience intéressante de pouvoir publier sur Globo. Ça montre aussi qu'il y a de l'empowerment.
J'ai juste peut-être envie de te demander, tu travailles sur le rapport entre le blogging et l'empowerment en Afrique. Qu'est-ce que tu as pu... Bon, j'ai bien compris que tes recherches ne sont pas encore terminées, mais qu'est-ce que tu as pu apprendre? Est-ce que le blogging donne du pouvoir en Afrique?
Donc, oui, je pense que ça donne vraiment du pouvoir. Hein, par exemple, quand tu as des blogueurs qui deviennent des personnes importantes, qui interviennent dans le débat public, qui définissent l'agenda du politique, le débat public, le débat politique d'une société, ça, c'est une preuve concrète de ça. Et moi, par exemple, quand j'ai publié un article sur les Haïtiens de São Paulo, cet article en une semaine est lu 5000 fois, les gens m'appellent, ils changent leur projet personnel parce qu'ils ont lu un article. Un monsieur m'a appelé d'Haïti, il voulait envoyer son frère au Brésil pour, je sais pas, étudier ou travailler, mais il savait pas exactement. Il l'envoyait à São Paulo, il a lu mon article, il a changé des projets. C'est vraiment des preuves concrètes de comment, à partir d'un simple travail de blogueur, on arrive à affecter des vies, des gens, etc. Mais c'est sans parler de questions professionnelles, de comment quelqu'un sort du blogging pour aller dans un autre domaine où il gagne plus, où il a plus de visibilité, il a plus de contacts, et voilà. Donc. C'est tout ça, ce sont des aspects hein, de comment ça. Il y a des, il y a la, les gens ont leur vie, voient leur vie être transformée par rapport au blogging.
Et c'est une étude en cours. Merci Serge, merci Ahlam, merci Widlaw. À bientôt.
Merci Ziad.
À bientôt. Merci.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're tuned to the international sound.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Bien, et toi ?
Écoute, très bien, je m'apprête à partir en vacances, toi aussi d'ailleurs, et tu veux nous parler aujourd'hui d'un de tes sujets de réflexion pour les vacances, la ville intelligente comme média. De quoi il s'agit ?
Alors la vérité d'abord, c'est que c'est pas totalement un choix. Je viens de me poser la question, et les vacances commencent, et il va bien falloir que j'y travaille un peu. Mais je tiens à signaler que je commence par quelques jours en Corse, donc je vais prendre ça tranquillement et gentiment. Ceci dit, je crois qu'il faut d'abord resituer le sujet tel qu'on en discute aujourd'hui. On parle souvent de la ville intelligente et ça part d'un concept initial qui est celui des villes bardées de technologies de l'information telles que nous l'ont proposé les grandes compagnies informatiques comme Cisco, IBM, Schneider Electric et autres. À côté de ça, il y a les critiques qui insistent sur la nécessaire participation citoyenne et la multiplication des termes. Je fais une enquête il n'y a pas très longtemps sur un moteur de recherche et voici les millions de réponses qu'on trouve pour certains termes. New City, qui veut dire ville nouvelle, on trouvait 27 millions de réponses. Smart City, la ville intelligente, 8 millions. Living City, la ville vivante, 1,5 million. Et Wise City, qui est la ville sage, un concept développé par Hong Kong, on trouvait 68 000 réponses. Et il y a même, c'était très drôle, Collaborati City, c'est-à-dire la ville de la collaboration, où il y avait 3 réponses. La question est en fait, qu'est-ce qui nous importe dans tout ça ? Et j'aime bien ce que Carlos Moreno, un ami avec lequel je travaille, propose. Il parle de 5 invariants, des éléments qu'on retrouve dans toutes les villes, malgré leurs évidentes diversités, l'infrastructure, les espaces publics, la politique pour le bien commun, l'ubiquité des technologies de l'information, les citoyens, et le tout dans un rapport complexe, ce qui veut dire que chacun de ces éléments doit être pris séparément, mais aussi dans les multiples rapports qu'ils entretiennent avec chacun des autres. Donc à tout ça, j'ajoute une question et je me demande si nous ne gagnerions pas quelque chose à envisager carrément la ville, celle qui commence à compter sur les technologies de l'information, comme un média.
Ce qui implique quoi ?
Alors j'en suis au stade où je me pose la question, mais l'idée générale est que ce qu'on appelle la ville intelligente est dotée d'outils de communication qu'on trouve partout. L'infrastructure elle-même, les câbles par exemple, qui reposent sur le haut débit par fibre optique, ou le 4G pour les communications par mobile. Ça c'est un point. L'autre c'est l'Internet des objets qui s'envoie des messages sans arrêt. Enfin, les citoyens qui se déplacent et accèdent à l'information d'où qu'ils se trouvent, mais qui communiquent aussi entre eux. Et tout ça se conduit à l'importance connue des réseaux sociaux. J'ajouterais que tout le monde ou presque peut s'informer, s'informe ou communique en permanence. Manuel Castells disait déjà il y a 20 ans que les flux d'informations comptaient autant que les flux de personnes ou de marchandises. Ceci a un impact sur la gestion de la ville et conduit les autorités et les institutions à communiquer plus et à fonctionner dans une transparence croissante. En clair, citoyens, entreprises et municipalités deviennent sources d'informations qui sont accessibles par tous et par toutes. C'est pour ça que je me demande si nous n'y gagnerions pas à considérer la ville intelligente, la ville qui cherche à le devenir, comme un média.
Et qu'est-ce que ça peut apporter, du coup, cette approche pour toi ?
Alors, il faut que je bégaye un peu. Enfin, il faut pas que je bégaye. Je ne peux pas m'empêcher de bégayer parce que c'est là qu'il faut travailler, creuser, réfléchir. Je t'ai dit que j'en étais à me poser la question, mais il me semble que cela ouvre au moins 2 portes. La première, c'est que la gestion et l'approche de l'information dans les villes, de sa circulation, des droits et des libertés qui y sont attachés, doit être abordée différemment, c'est-à-dire en tenant compte de ce que nous savons des médias et de la communication. La seconde, c'est que la ville elle-même devient un défi pour les médias traditionnels, et c'est pour ça que j'en parle dans l'atelier des médias. Et si tu me permets pour une fois, j'aimerais bien savoir comment tu réagis à cela et qu'est-ce que tu penses de cette question sur la ville comme média.
C'est à mon tour de bégayer alors, Francis. Ce que je peux te dire, c'est que ça me fait penser à un de nos invités, Boris Baud, qui est géographe et qui nous expliquait, et c'était une idée assez lumineuse, que le web et des espaces comme Facebook, Twitter, etc., ce sont des territoires également, des territoires d'interaction. Et j'imagine que si des médias sociaux sont des territoires, ça paraît assez logique de considérer des villes qui ont toujours été considérées comme des territoires, comme des médias ou des lieux où on peut échanger.
Eh ben écoute, nous voilà avec un bon sujet de conversation pour un bon moment. On en parlera à la rentrée.
Et de réflexion pour l'été. Merci Francis. On peut retrouver toutes tes chroniques sur ton site francispisani.net, sur ton blog de l'Atelier des médias et sur les sites de l'Opinion et de la Tribune. À bientôt. Bonnes vacances.
À bientôt. Très bonnes vacances à toi et à Simon qui est toujours présent.
Mais on sera toujours à l'antenne, évidemment.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 390 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barat, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Merci à toute l'équipe de Hack Explore pour son accueil. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com, atelier.rfi.fr et toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de vous déplacer dans la ville, dans la campagne, vous faites bien. Partagez la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission le 5 septembre. Nous serons à Visa pour l'image, le festival international du photojournalisme. Pendant notre absence, vous pourrez réentendre une sélection d'émissions, d'entretiens remontés pour vous par Simon De Creuse. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.